Qu'est-ce qu'on déguste vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Or à Bastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Vous savez, commencer, toutes les bonnes choses ont une fin, et même cette année 2011, qui a été une des meilleures années économiques de l'année, va devoir s'achever, elle aussi, dans ce qu'il reste de bonheur à distribuer au monde entier. Nous, on va essayer de vous en distribuer un petit peu ce soir, comme on le fait chaque vendredi soir au micro de CFM, avec toute l'équipe, ou en tout cas une bonne partie de l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste. Alors, pour l'occasion, Pascal Olivier, bonjour.
Il est là, salut
Fabien
à tous.
Fabien Martinet, bonjour.
Bonsoir tout le monde.
Christophe, Gaël, pardon.
Salut à tous.
Son Max, ça va ou quoi ?
Oui, ça va très bien.
Et Christophe Bory.
Bonsoir tout le monde.
Sont réunis sous le chapiteau bien chauffé, particulièrement bien chauffé. Bravo aux organisateurs.
Ouais, on n'a pas froid là. Hein,
de ce marché de Noël des faiseurs singuliers qui est situé sur la place nationale à Montauban. Alors, il y a plus d'une trentaine d'exposants sur ce marché, et des artistes, et des artisans d'art, et également des producteurs. Voilà, des producteurs locaux. Et c'est avec ces producteurs locaux que nous allons faire connaissance ou reconnaissance tout au long de cette émission. Puisqu'en fait, pour la plupart, on a déjà reçu tous ces gens dans notre émission. On a déjà fait les honneurs à Juan Kervin du Mas des Anges. Bonjour Juan Kervin.
Bonsoir.
Ça va ?
Oui, ça va.
Merci
ça va.
De repasser par cette émission à l'occasion de cette édition spéciale. Il y a Pierre-Marc aussi qui est avec nous. Bonjour Pierre-Marc.
Bonjour Rémi.
Coutelier d'art.
Hein, d'art.
Ah bah oui, d'art. Il nous présentera
Vite
son
fait.
Travail dans un instant. Viendront autour de cette table tout au long de l'émission Bertrand Houël, Safranier à Saint-Georges, Grégory Robert à Brasseur, de la brasserie Ocal à la Française, Madame Patard du domaine de Biarnès, Magalis Vobodny du domaine Pouletou de l'Abéjou.
Pouletou
ouais, d'accord. Côte. Et puis Olivier Thibault, c'est les rives de l'Aveyron.
Jus de fruits, superbe.
C'est du jus de fruits. Ouais.
On finira au jus de fruits cette année. Hein.
J'ai parlé du safran.
Oui.
Ouais, et ben voilà, donc j'ai tout dit. De quoi allez-vous me parler, vous, de votre côté ?
Oh, plein de choses, et puis on va poser des questions. Et puis le gala gourmand.
Oh, dis donc, c'est comme le gala,
mais gourmand.
Mais gourmand.
Et il y a des petites recettes sympas. Alors, j'ai fait un petit peu le tour des recettes de fêtes, de fin d'année. Il y a tous les magazines te disent, voilà, il faut faire du foie gras, il faut faire du champagne, nos meilleurs rosés, etc.
C'est quoi ? C'est quel quiche sort avec quelle tourte ? C'est ça,
voilà,
gala,
à peu près. Mais ça, c'est pas mal comme canard. Donc, on en parlera un petit peu.
Fabien ?
Un petit bouquin d'Heroic Fantasy sur le sujet, le thème de Noël, mais bien sûr décalé.
Gaël ?
Un pas vers les étoiles, donc un conte de Noël, mais pour adultes.
Une anthologie Christophe. Graphique qui concerne la Beat Generation, et mon cadeau de Noël, celui dont je rêve, c'est l'intégrale des Smiths, un groupe de pop anglais.
D'accord.
Et on écoutera des morceaux d'une compile spéciale Noël de chez Stone Throw.
On démarre avec un absent autour de cette table, en fait deux absents, hein. Georges Monfils qui nous rejoindra plus tard dans cette émission pour nous proposer le jazz de Noël, évidemment, et puis Patrick Combalbert qui sera définitivement absent. Pour cause de raison de, je sais pas,
professionnel.
De Patrick Combalbert.
Il est jamais à l'heure.
Il est jamais à l'heure. On commence comme ça. Est-ce qu'on pourrait remplir ces verres d'un petit peu de masse des anges et puis après on discute.
Fait soif.
Allez, il fait soif.
Commençons-nous par du jus.
Christmas is a coming.
Tu vas.
Alors, fais soif.
Put a 10 cent in a sufferer's hand. If you don't have a 10 cent, then a 5 cent will do. And if you don't have a 5 cent, Jah Jah bless you. So Jah bless the eye, Rasta man, Jah bless the eye. All right, me say Jah bless the eye, Rasta man, Jah bless the eye. All right, the Houston in the ghetto face a tribulation. Get up every day and got no work to do. We sit down and sigh. Until we all angry. We say Jah bless the eye, Rasta man, Jah bless the eye. Alright. We say Jah bless the eye. Oh Rasta man say Jah bless the eye. But a wally pasaro and a wally pasaro.
a pen. The youths them up here begging on the falling rain. Seems like nothing ever gonna change. Everything going on same way. We can't get a 5 cent, not even a 1 cent. We can't get no money just to pay our rent. So Jah bless you, Rastaman Jah. Christmas is a coming and the money is ration. Won't you put a 10 cent in a sufferer's hand? If you don't have a 10 cent, then a 5 cent will do. And if you don't have a 5 cent, Rasta does you. Say, Jah bless you. But let me say, Jah bless you. All right. Say, Jah bless the eye. Rasta man, Jah bless the eye.
Le Noël jamaïcain de Cocoty, Christmas is Coming, sur une compile qui était sortie justement pour Noël sur le label Stones Throw Records.
Alors, peut-être Rémi, un mot, tu es un peu l'animateur de ce marché de Noël, un peu l'initiateur de ce marché de Noël. Oui, prends un micro, vas-y, prends un micro. Voilà, c'est la deuxième année que les Faiseurs Singuliers organisent un marché de Noël place nationale. Vous avez appris de l'année dernière et donc amélioré le concept. Ça a l'air d'être de bien se dérouler cette année, ça se passe bien?
Alors, l'année dernière, ça a été une réussite. Tous les exposants qui ont participé à l'événement étaient ravis. On avait fait un bilan vraiment très positif. C'est vrai que la grande contrainte l'année dernière, c'était le temps, les températures extrêmes pendant 15 jours. Donc la durée aussi, puisque le marché donc, a tenu pendant 15 jours avec des tentes vraiment ouvertes à l'extérieur. Bon, des températures incroyables. Là, cette année, c'est vrai qu'on a un hiver beaucoup plus doux.
Ça, c'est du bonheur. Ouais.
Plus humide, par contre.
Enfin, ils ont bien tenu le coup, les exposants, parce que ceux de l'année dernière sont revenus quand même cette année.
Tout à fait, oui.
Ils se sont gelés, mais ils sont indestructibles.
Les artisans sont robustes et solides. Hein, ils consomment des produits du terroir et je pense que ça les aide.
Voilà, ça les aide à tenir. J'ai remarqué que question consommation d'antigel, vous êtes pas mal quand même dans l'ensemble.
On est pas mal, ouais. Mais il faut c'est la période, mais c'est du bon antigel. Et donc après, c'est vrai que donc pour revenir effectivement au nouveau concept cette année, on est sur un nouveau format, donc une grande tente, un grand chapiteau avec un esprit de village, un vrai esprit de village qu'on n'avait pas l'année dernière.
Ouais.
Là, tous les exposants sont les uns à côté des autres. Il y a une vraie vie de groupe.
Et, c'est plus convivial en fait.
Voilà, c'est beaucoup plus convivial. Et puis on n'a pas que on a des exposants les uns à côté des autres, mais on a surtout un groupe, une famille. Et cette famille, elle vit au quotidien sous un chapiteau. Ça se passe vraiment très bien. D'ailleurs, je remercie tous les exposants qui sont là depuis le début du marché, puisque ils s'entendent tous parfaitement bien. On n'a pas eu
pas de bagarre pour le moment.
Pas de bagarre pour l'instant.
Juan n'a mis des claques à personne. Marc non plus. Et il vaut mieux pas parce qu'on a les deux plus costauds du chapiteau là quand même sur le coup.
Non, c'est une vraie. Pour l'instant, c'est une vraie réussite et je pense que ce format sera préservé effectivement pour l'année prochaine et on repartira sur le même style de marché. Voilà.
Eh ben écoute, déjà il n'est pas fini ce marché. Hein. Il faut que les gens continuent de venir ici.
Ça dure jusqu'à quand?
Jusqu'à samedi midi.
24.
Et demi.
Alors on termine. Donc on a commencé avec Bottle Swing à midi samedi 17. On clôture les animations donc samedi 24 avec Bottle Swing. À midi, et ensuite donc on clôture, on ferme vers 4h à 4h30, le temps de tout ranger et de rentrer à la maison avec nos familles et nos amis.
Il n'y aura rien à ranger, vous aurez tout vendu.
On vous le souhaite en tout cas.
Merci. C'est l'heure.
Alors, santé. Alors, nous trinquons avec un vin de chez Juan Kervin, du Mas des Anges, récolte 2010.
Un vin de chez nous.
Vin non filtré, monsieur, dame. Juan, bonjour. Rebonjour.
Bonsoir.
Alors, quoi de neuf au Mas des Anges?
Mais le Mas des Anges est toujours sur la commune de Montauban. Le Mas des Anges fait toujours du vin rouge, en bibe et en bouteille. Le petit dernier de 2011, c'est l'Angelot. L'Angelot est un jus de raisin pur merlot.
Celui qu'on a dégusté en ouverture.
Exactement. Ouais. Donc voilà. Donc il y a pour tous les goûts.
Alors, on le trouvait sucré. Je reste deux secondes sur le jus de raisin. C'est le merlot qui apporte cette sucrosité.
C'est le merlot. Pourquoi? Ouais. Parce que je récolte un peu tardivement pour avoir, je dirais, un équilibre entre l'acidité et le sucre. Idéal. Il ne faut pas oublier que le Malaisange, on travaille sur des faibles rendements, donc on ne dépasse pas les 30 hecto-hectares, ce qui est très faible. La vigne est jeune, donc je veux la préserver. Toute la puissance de cette jeune vigne et cette exposition plein sud, ça nous donne du sucre dans le raisin. Le voilà.
Le voici. Et pour le vin qu'on est en train de boire, il fait partie donc de la récolte 2010. Ça veut dire que c'est cette récolte où il y a plein de Belges qui descendent au Mas des Anges et qui envahissent les vignes là-bas. C'est ça
Merci.
Il n'y a pas que des Belges.
Nous vendangeons, nous faisons deux vendanges. La première vendange, c'est le Merlot, c'est 65% de la superficie. Donc c'est une vendange qui démarre le vendredi et qui termine le mardi de la semaine suivante. Et le Cabernet Sauvignon et le Tanat. Le Cabernet Sauvignon et le Tanat, c'est d'habitude 15 jours après. Les superficies sont plus réduites. Donc ça, c'est une vendange qui commence le vendredi soir et qui termine le dimanche soir. Et là, c'est une vendange, je dirais, organisée par notre ami Vincent Bobo, qui nous a amené son équipe de vendangeurs locaux, du moins, d'accord, français. Donc ça va de Paris à Lyon et ça se retrouve ici, sur les coteaux de Montauban.
D'accord.
Avec beaucoup de plaisir.
Donc un récolte 2010, ça veut dire qu'on boit du vin nouveau là, hein. C'est...
Ah non, le vin nouveau 2010. Serait du 2011.
Ah non, mais on est en 2011, pardon.
Oh, Rémi, enfin, il est pas vieux, mais il est pas nouveau. Comment il est alors, un petit...
Bah, il fait toujours ses 14 et demi.
Toujours des degrés.
Toujours des degrés. Je ne sais, bon, on pourrait jouer sur de moins, faire descendre un peu les degrés, mais pour ça il faudrait, je dirais, tailler plus long, ne pas ébourgeonner. Mais à ce moment-là, je vais trop tirer sur la vigne. C'est trop tôt.
Et puis ça va te filer du boulot.
Comment ?
Ça va te filer du boulot.
Non, pas du tout. Non, je dirais faire un vin comme ceci, c'est le maximum de boulot que je puisse avoir.
Ouais, c'est bien parce qu'au nez, c'est quand même très charnu, très. Oui. Il y a des plein de fruits rouges et puis une grande rondeur aussi.
Oui, et son degré d'alcool n'est pas agressif.
Non.
Donc voilà.
Et on va pouvoir, par exemple, déguster ce vin-là sur un petit cabécou, des choses comme ça.
Ça se marie très bien.
Ça tombe plutôt bien, alors.
Ben voilà.
Ça tombe plutôt bien parce que...
Et pourquoi donc ?
Eh bien parce qu'à côté de Juan Kervin du Mas des Anges, nous avons Pierre-Marc, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Vous pouvez... Allez-y, débrouillez-vous.
Bonjour Pierre-Marc.
Et bonjour Rémi, Jean-Bernard, c'est ça ? Non, Pascal Olivier.
Pascal.
Alors, Olivier.
Fabien, Gaël.
Christophe.
Gaël, Georges, Christophe,
Fabien et Jean.
Christophe, c'est celui qui a. Georges, c'est celui qui est arrivé en retard.
Voilà, c'est lui.
Ah, voilà, c'est lui.
Qui a tout cassé.
Par contre,
comme tout le monde.
Ça va ?
Ça va.
T'es venu avec un peu de musique d'ascenseur ?
Oui, bien sûr. Bon. Les deux disques qui m'ont marqué cette année en 2011, deux disques jazz vraiment intéressants.
D'accord, on en reparle tout à l'heure. Pour le moment, donc, Pierre-Marc. Je suis content en fait de l'accueillir. L'année dernière, rappelez-vous, on avait fait un jeu à la même période de Noël. Il était déjà exposant ici au marché de Noël et on avait fait gagner à nos auditeurs un couteau, le Montalban, puisque donc Pierre-Marc fabrique et fabricant de couteaux.
Il a créé.
Et il a créé le Montalban. Voilà, c'est un très beau couteau.
Apparemment.
Et alors, expliquez-nous en quoi est fait la
alors,
corne.
Déjà, on va parler tout simplement ce couteau Montalban qu'on va offrir à un gagnant. Donc, je vous laisse libre cours à votre jeu. Mmh. D'accord. Le manche est en fibre de lin, donc non teinté, donc clair, beige, avec une lame en Sonvic. Donc, une bonne tenue de...
Un bon acier.
Un bon acier, voilà. Un montage main qui est réalisé par moi-même et puis évidemment par Jocelyn qui fait partie de l'équipe.
Elle est où cette coutellerie ?
Alors, cette coutellerie se situe juste en face d'un fabricant de cabécou. J'en ai parlé. Et aussi d'un boulanger qui fait du pain au feu de bois que je trouve particulièrement bon. Donc, je me suis permis de vous en amener.
Mais donc, et alors, ok, vous êtes en face l'un de l'autre, mais à quel endroit quand même ?
Alors, je suis donc l'atelier dans le 82, la maison attenante à l'atelier dans le 46, vous voyez.
D'accord.
C'est curieux, mais c'est comme ça. Je paye mes impôts différemment, c'est très
à
rigolo.
À la frontière.
À la frontière, au moins cher, on cherche. Et donc, Veilat, qui est quasiment en face du domaine, fabrique des cabécous. de très très bonne qualité.
Et l'atelier s'appelle Kermark.
Oui, Kermark.
Kermark, parce que Ker en breton, alors, c'est la maison, c'est ça?
Voilà, alors Kermark est écrit comme ça dans ce texte, M-A-R-C-K. Ça veut dire la petite maison de Marc, là où habite Marc.
D'accord.
Tout simple, en breton.
Donc votre atelier, c'est chez vous?
Voilà, c'est chez, simplement. Oui, tout à fait. Je travaille à domicile.
D'accord.
Voilà. Donc je me permets, je prête à Rémi un couteau Montalban pour manger ce cabécou.
Et regardez bien ce couteau, vous savez en quoi il fait la...
Ça peut être
le manche.
Le manche. C'est du cerf.
Non, c'est pas non. Du cerf. Allez, on essaye de cochon. Deviner. On essaye de deviner.
Une corne de.
Une corne de.
Je sais pas,
de. Ah non, c'est pas une corne non plus.
C'est du mammouth.
C'est absolument
c'est
vrai,
du
monsieur.
Mammouth.
C'est du mammouth.
Ouais,
c'est de l'ivoire de mammouth qui ouais. Vient du permafrost, évidemment, hein, de la toundra.
Syrie, ouais. Sibérie.
Sibérie.
Sibérie. Sibérie.
La fameuse toundra syrienne.
Avec de la turquoise qui vient de Sibérie. De Syrie, pardon.
Et là.
J'en prête un à Christophe.
Ouais.
Et j'en prête un à notre ami Robert.
À Pascal
Olivier.
Olivier.
Pascal Olivier, pardon.
Allez, Robert. Non, non, mais tu me laisses celui-là. Voilà. Alors, les lames sont en. Comment ça s'appelle?
Alors,
ça
la lame en niveau de mammouth, c'est du damassé, ce qu'on appelle. Voilà. Hein, le damasquillage. Donc, c'est un millefeuille d'acier. On va les mélanger et les deux nuances d'acier qu'on va mélanger à l'acidité, à l'oxydation, va révéler deux couleurs différentes. Donc ça va donner une fibre à l'acier.
Oui, beaucoup plus résistant, très flexible.
Voilà, tout à fait.
C'est un feuilletage en fait, c'est comme en pâtisserie, un feuilletage, c'est-à-dire qu'on met des couches.
Exactement, et c'est très bon aussi.
Là, un feuilletage d'acier d'amacinox, c'est un peu dur à digérer, mais par contre, ça coupe vachement bien.
Voilà, alors il nous les prête le temps de l'émission. Avec ça, on va pouvoir tartiner.
On va les lui barboter,
de ces,
oui.
De ces fameux cabécous. On peut pas les lui barboter parce
alors,
que.
Alors ces cabécous-là, on les retrouve aussi, il faut le dire, à la bouche du plaisir, à la
oui,
voilà.
La fine bouche.
À la fine bouche, pardon. Majorie. Mais la bouche du plaisir, c'est bien aussi. Hein. La fine bouche à Motoban, puisque notre ami qui fait les fromages est distributeur officiel là-bas.
Laurent Bassino de la fine bouche.
Combien ça coûte un couteau comme ça, s'il vous plaît,
monsieur Marc ? L'ivoire de mammouth, là, il faut compter dans les presque 1000 euros.
Voilà, alors on part pas avec 1000 euros celui-ci.
Ouais, non, mais il court pas vite. Alors, après,
c'est... Non, mais je vous rassure, celui que on va vous offrir ce soir, il fait pas 1000 euros, mais c'est quand même un très beau couteau qui est une valeur de 70 euros.
Oui,
à peu
70
près.
Euros, qui voilà. Est déjà, on l'avait fait un prix promotionnel pour Noël. C'est un couteau qu'on vendait 100 euros, qu'on l'a fait à 70 euros, donc je suis quand même.
Alors évidemment, vous êtes présent encore jusqu'à samedi midi ici.
Tout à fait.
Et puis on peut alors, venir admirer votre travail.
Le pain ne se coupe pas, il se rompt.
Oui. Ouais, regardez, il se coupe
je vais pourtant faire l'article tout à l'heure. C'est
là.
Curieux quand même.
Non, mais il va finir par se couper maladroit.
Par contre,
comme il est.
Moi j'aimerais bien dire une chose. Je vois que le vin se sert facilement, mais je dois noter quand même que Christophe n'a pas touché au jus de raisin.
Ah non mais jamais. Ça,
non non. Pourquoi
il le prend avec du gin ou de la vodka.
Il y a trop de sucre.
C'est curieux.
Il a un problème avec le sucre.
Juan, je sais que tu voulais pouvoir parler de l'assemblage de ton vin
avec.
Avec ce cabécou, oui. Justement.
Okay. Donc, pourquoi ? Parce que le vin du Mas des Anges est un vin puissant, un vin charpenté, donc il faut absolument avoir, je dirais, un fromage, une viande, un plat, je dirais, qui est capable de ne pas se faire dominer par ce
rivaliser
par ce
vin. Rivaliser avec le
voilà,
Mas des Anges.
Voilà, il faut arriver à trouver l'équilibre entre le plat et le vin. Et ce fromage, bon, j'ai eu l'occasion de goûter ce fromage sur l'heure de midi, et je me suis dit, mais, il y a un bel équilibre entre le vin du Mas des Anges et ce fromage. Voilà.
Santé au vin du Mas des Anges et au cabécou de comment s'appelle-t-il ? Voilà. Et puis,
et
à vos couteaux,
si vous voulez, je vais vous donner une recette excellente avec ces cabécous et ce vin.
Allez.
Le cabécou, vous prenez un peu de miel avec du safran, notre ami qui est ici. Vous faites donc revenir, infuser un peu de safran, quelques brins. Vous le mélangez avec le miel. Vous l'oubliez un petit peu, une semaine. Vous le mettez avec le cabécou, un petit morceau de pain grillé et du vin des Mas des Anges. Et vous êtes donc automatiquement au paradis.
Merci d'être passé nous voir. On va de suite marquer une première rencontre musicale. Avec celui qui est derrière moi en train de s'installer sur la scène, c'est Jimmy. Ça va, Jimmy?
Oui, tout à fait.
Bon, oui, parce qu'il faut vous dire que ce soir, c'est nocturne. Ici sur la place nationale pour ce petit marché de Noël. Et donc il va y avoir des musiciens qui vont jouer tout au long de la soirée, dont Jimmy qui nous fait le plaisir eh bien, de nous faire un morceau d'actualité pour l'occasion. Jimmy, c'est à toi quand tu veux.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a 15 Chevrolet. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Driving through the snow in one horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a slinging song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a 15 Chevrolet. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dreaming through the snow in Hornwall's open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a slinging song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a 15 Chevrolet. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jimmy, rejoint par Arnaud, qui ne supportait pas l'idée quand même que Jimmy joue seul pour CFM Radio dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste ? Nous sommes depuis le marché de Noël, place nationale à Montauban. Alors, on va rajouter une petite chose sur les couteaux de Marc. De Pierre-Marc, c'est que celui qu'il vous offre là, celui qu'on fait gagner, il est où ce couteau d'ailleurs ? Il a été, ça y est, il est déjà dans une poche.
Non, non, non,
non,
il est là.
Oui, c'est bon.
Il est dans la poche de Georges.
Le gagnant de ce très beau couteau Montalban,
c'est moi.
Ira sur le stand de Pierre-Marc ici se le faire graver à son prénom.
Ça va être pratique.
Gratuitement.
Gaël, ça s'est très vite.
Oui, ça va, c'est très court.
Bah, c'est bien. Hein.
Donc, on va voir comment est-ce qu'on va faire gagner ce couteau, n'est-ce pas ? De toute manière,
on réfléchit à des questions à la con.
Oui,
en passant, on fait confiance.
Moi,
tu vois, spécialiste.
Je voudrais qu'on accueille bientôt et donc qu'il se prépare à venir nous voir Bertrand Oel, safranier à Saint-Georges, près de Sept-Fonds. Vous connaissez peut-être la ferme du safran ?
Bien sûr.
Vous
ne
connaissez pas la ferme du safran ?
J'y vais tous
ben
les
vous allez
tous
faire
les jours,
connaissance moi. Avec la ferme du safran dans un instant. Aurélien, on en est où ? Il nous reste une petite minute avant d'arriver à la fin de cette toute première demi-heure. Juan, tu voulais dire un merci à la municipalité, je crois.
Non, je crois qu'il
on
est
une minute.
Oui.
Dis-le bien près du
non,
micro.
Non, il est important, je crois, de rappeler que ce marché est organisé par l'association des faiseurs singuliers, mais que ce marché n'aurait pas pu se faire dans de telles conditions sans, je dirais, un appui total du service de la municipalité, de la mairie de la ville de Montauban, que je remercie personnellement en tant que co-président
et
de l'association.
Chaleureusement.
Mais je parle très mal.
Eh bien voilà, c'est dit. Merci, Juan.
Merci.
Voilà, aussi présent, il y a un stand du Mas des Anges sur ce marché jusque samedi après-midi.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt ? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
You need a real man.
ho, 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 ho. C'est comme ça, normalement, qu'on fait dans les débuts d'émissions de Noël.
Non, ça c'est Bonne Nuit les Petits avec Nicolas.
Si tu veux endormir l'auditeur, c'est bon, ça.
Oh. Qu'est-ce qu'on déguste avec Pascal Olivier, Fabien Martinet, bonsoir. Gaël Stenbach, Georges Bonfils, Christophe Bory.
Oui.
Depuis donc le marché de Noël, place nationale à Montauban, avec maintenant comme invité, on commence par les dames, hein, excusez-moi, Nathalie Patard du domaine de Biarnais.
Bonsoir.
Et pourtant nous ne sommes pas en juillet.
Oui,
le 14 juillet.
Madame Patard qui a une chaise à son nom dans les studios de CFM, tellement elle vient souvent.
Oui.
Et tellement elle vient pas tard. Ça va?
Ça va, oui, merci.
Vous mieux pas tard que jamais. Merci d'être là. Et vous êtes à côté donc de Bertrand Hoël Safranier à Saint-Georges. C'est près de Sept-Fonds.
C'est bonjour. Près de Sept-Fonds, bonsoir.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Voilà, la ferme du safran.
Oui.
Qui fait table d'hôte également.
Qui fait table d'hôte. On reçoit les gens chez nous qui viennent un peu de partout en France pour
manger
découvrir le safran. En fait.
Exclusivement au safran.
Les repas sont exclusivement au safran et on essaye de leur faire comprendre en fait que le safran est cultivé en Tarn-et-Garonne depuis 1450.
Ouais.
Et on a la chance d'avoir un des meilleurs terroirs du monde, donc il faut le faire savoir.
Qu'est-ce qui fait qu'il a été arrêté, que la culture du safran a été arrêtée
Mais de 1450 à 1850, en fait, c'était l'apogée du safran ici. Sur la zone de production, on produisait à peu près 30 tonnes. À l'heure actuelle, on est à 30 kilos sur la même zone. Donc, la raison pour laquelle on l'a arrêté, c'est que c'est surtout Napoléon. Napoléon est arrivé à un moment, pendant 4 siècles, le safran a servi de monnaie. C'était carrément la monnaie ici. Tout était négocié en safran. Et Napoléon l'a remarqué, et comme tout l'argent lui est passé sous le nez, il a créé des taxes. Et ce qui fait que le safran est parti en désuétude, un peu, en fait.
D'accord. Oui, sûr.
Et beaucoup de main-d'œuvre aussi.
Ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Ça se fait de toute manière exclusivement en famille. Hein. Ouais. Donc, voilà. Hein. Il n'y a pas des grosses safranières, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il faut de la main-d'œuvre. Et à contrario, le safran coûte cher, mais on ne peut pas embaucher. On passe tellement de temps à faire un gramme de safran qu'on ne peut pas embaucher les gens.
Aujourd'hui, vous produisez combien par an?
Alors moi, j'ai une safranière qui fait à peu près 2000 m², qui fait à peu près 80 000 bulbes. Et je récolte, cette année, j'ai récolté 200 grammes.
C'est votre activité? 200 grammes?
Ouais, ouais.
Et c'est combien le gramme?
Le gramme tourne à 30 euros. Un bon safran tourne à 30 euros, mais au niveau mondial. Hein.
D'accord.
Les gens pensent voilà, le safran cher, mais c'est son prix partout dans le monde, en fait. Donc, on bute beaucoup sur ce problème. Parce que les safrans, en France, on a détecté à peu près 27 safrans qui ne sont pas des safrans.
Ah bon? Donc, c'est-à-dire, couleur du safran, c'est du safran Canada Dry.
Voilà, la poudre de safran, une réelle poudre de safran, on n'en voit pas, on n'en trouve pas. C'est souvent du curcuma coloré, caché.
Il y a des trucs mélangés dedans, voilà, ouais. Donc, oui, que tu trouves en Espagne. Rue, ou... Donc le safran, ça s'achète comment? En poudre ou en pistil?
En filament, toujours en pistil. Hein. Le vrai nom du pistil, c'est stigmate, en fait.
Le stigmate.
Voilà. Et il faut le trouver comme ça. Et même comme ça, il y a énormément de fraude, en fait. Hein. La fraude la plus connue, bien sûr, c'est la barbe de maïs. Et ça va jusqu'à la viande de porc. Hein. La rouelle de porc, ça fait des beaux filaments. Et la dernière fraude qu'on a détectée, c'est les poils d'artichaut.
Oui, mais ça n'a pas le pouvoir colorant du safran.
Non,
comment on fait pour reconnaître un vrai safran d'une...
Avant de l'acheter.
Voilà. Dans une boîte, c'est un peu compliqué. Le problème, c'est qu'on ne vous autorise jamais à ouvrir une boîte quand vous l'achetez. Nous, les producteurs, on le fait sentir et on ouvre nos boîtes.
Donc, il faut aller l'acheter chez le producteur.
L'idéal, moi, c'est ce que j'explique aux clients qui viennent chez moi. Hein. J'essaye de leur expliquer la démarche que mes parents avaient. Mon père avait son marchand de vin. Il allait exclusivement chercher son vin chez son marchand de vin. Maintenant, les producteurs qui font de bonnes choses sont obligés de venir devant les gens et leur ouvrir des bouteilles pour prouver qu'on fait quelque chose de bien. Quoi.
Mais un rapide calcul, vous dites 30 euros le gramme, vous avez fait 200 grammes. Ça veut dire que sur une année de production, vous sortez 6 000 euros.
Et
donc, il faut des activités à côté.
Je fais table d'hôte, chambre d'hôte et exclusivement sur le safran. Les gens viennent chez moi pour découvrir le safran.
Et vous le vendez où? Sur les marchés?
Chez moi. Je vends toute ma production chez moi.
D'accord.
Donc j'ai arrivé à développer un petit truc sympa.
Ah, je trinque à votre santé, tiens, déjà.
À la bonne.
Et allez, c'est
parti.
Allez, c'est l'heure de la chronique de notre bobo.
Non, il aime pas qu'on le dise.
Oh,
ça,
bobo, il y en a marre maintenant.
2012, c'est fini.
Et oui, 2012, mais pourtant ce livre-là que tu vas nous présenter est le prototype même du livre du bobo.
C'est la culture underground. Je vois pas ce que le rapport, elle est bobo, Rémi.
Ah, la culture underground, la beat generation.
C'est à la limite, mais en même temps, pas trop lui en vouloir, c'est une bande dessinée pour une fois.
Oui.
Eh oui. J'empiète sur la rubrique de Gaël, effectivement, mais c'est pour une bonne cause. C'est une superbe BD ayant comme sujet l'underground des années 60. Tu la connais, Rémi, parce qu'elle a déjà été chroniquée dans l'émission Les Voix de l'Alma, l'émission que tu animes avec nos amis
des
librairies Montalbanais.
Les libraires Montalbanais.
Les libraires Montalbanais. Ce bouquin était orchestré par Harvey Pekar, un célèbre dessinateur américain. Et cet album The Beats retrace l'histoire de cette époque, les années 60, à travers une vingtaine de courtes BD. Dans ces récits en noir et blanc, on suit les acteurs principaux de ce mouvement artistique né aux États-Unis et donc le style de vie qui va avec drogue, alcool, bourlingage, liberté sexuelle. Pascal, tu connais bien ça, les années 60. Je pense que tu as vécu ça de près.
Exactement ça.
Voilà. Cet album original n'a pas pour ambition de retracer de manière exhaustive l'histoire des Beats, même si on retrouve bien sûr le célèbre Sur la route de Kerouac. Mais les différents chapitres montrent plutôt comment le groupe fondateur s'est constitué, le trio Kerouac, Ginsberg, Burroughs, qui apparaissent en tête de l'album. Donc des petites bandes qui se forment de New York à San Francisco, des histoires d'amour qui se créent, plein d'anecdotes croustillantes. On parle de l'engagement de Kerouac de la marine, Burroughs qui pratiquait le tourisme sexuel à Tanger et d'autres qui cultivaient de la marijuana, enfin bref, la culture underground des années 60. Et ce qui est vraiment intéressant dans le bouquin, c'est que les auteurs ne sont pas mythifiés. Kerouac, par exemple, est présenté comme un bisexuel qui était homophobe, quand même, finalement, peut-être le seul type, misogyne, limite raciste, alors qu'on l'imaginait tout à fait cool, puisqu'on idéalise les auteurs de cette époque. Eh bien, cette bande dessinée remet les pendules à l'heure. Voilà, un bel album.
Moi, j'aime bien l'album. Il y a un petit côté Daniel Clowes au niveau de l'habillage de la couverture. C'est plutôt un bon album.
The Beats, chez Emmanuel Proust, anthologie graphique.
Qu'est-ce qu'on nous a amené sur la table ?
Alors, ça c'est pour tout à l'heure. On a c'est plusieurs choses qui se télescopent. Voilà, et vous êtes rué évidemment sur les mauvais plats. C'était pas ça qu'il fallait déguster tout de suite. Ça c'est pour après.
Mais c'est chaud.
Bah oui, c'est chaud. Chaud.
Les mauvais plats. En même temps, c'est très bon.
Alors, voilà. Moi, je prends une petite cuillère ici.
C'est un petit confit, là. Un petit confit.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'on déguste ? Dites-nous.
Un petit confit de poire au safran. Et ça, c'est pour accompagner foie gras chaud ou foie gras froid. C'est un petit peu pour changer cette année de la figue. La plupart du temps, on met de la figue sur le foie gras et vous allez vous rendre compte que la poire, ça peut être très très bien sur le foie gras.
Moi, j'ai l'impression que la poire est à la mode en ce moment en Tarn-et-Garonne. Je sais pas pourquoi.
C'est-à-dire qu'il en pousse pas mal quand même, hein, Tarn-et-Garonne, de la poire. En même temps.
Sous forme de distillat aussi.
Ouais. Oui, le safran fait un réel travail. Hein. Si je vous dis pas que c'est de la poire, vous vous trouvez pas. Hein.
On dirait du couin.
À la consistance,
ouais. On sent que c'est de la poire. Voilà.
J'ai eu des cuisiniers chez moi, je les fais goûter à l'aveugle en fait un peu et personne ne me sort la poire.
On pense que c'est du coin.
Ah oui. Moi j'avais trouvé tout de suite.
Souvent c'est coin, pastèque.
On sait qu'il y a du safran quand même.
Et là vous avez un petit gâteau à la pomme que ma femme fait en général sur les menus à la maison. Et c'est pareil, c'est assez sympa sur les desserts. C'est même très sympa sur les desserts.
Est-ce que les consommateurs d'aujourd'hui reviennent vers le safran, découvrent ce produit finalement qui est très mal connu?
Mais disons qu'on a un peu de mal à le vendre parce que il y a une crainte. On a parlé du safran à la télévision et autres, et puis le problème c'est qu'ils ont fait circuler un prix et tout le monde bute sur ce prix.
Oui, on dit ça vaut autant le kilo.
Voilà, alors qu'en fait avec un demi-gramme de safran, moi personnellement je vais réaliser un repas pour 4 personnes, une fois par mois, toute l'année, avec un demi-gramme de safran.
Oui, donc 15 euros sur l'année.
Voilà, ça fait 33 centimes à l'assiette, en fait. Hein.
Donc, il y a plein de vertus, en plus, pour l'organisme.
Le safran, c'est un vrai médicament. À l'heure actuelle, on le retrouve même dans le traitement du sida et du traitement du cancer. Hein. En fait, bien sûr, on n'annonce pas le mot safran, on va annoncer la molécule, les molicules qui sont dans le safran.
Ah, ouais, non, mais il faut faire attention, on ne peut pas dire aux gens ça soigne le cancer, ça soigne le sida, le safran.
Hein, ah non, non, il y a une étude qui est faite, hein, c'est sérieux. Hein. Moi, j'ai eu une dame qui est venue chez moi et elle a mangé le safran et je lui ai fait sentir mon safran, bien sûr. Et cette dame m'a fait que des mauvais souvenirs. Les cachets qu'elle prenait avaient, avaient l'odeur du safran.
Ah oui, d'accord. D'accord. Ah, ça rentre dans les compositions. Sérieux, hein,
les molécules. Hein, pas le mot safran, hein, les molécules du safran.
Vous recevez beaucoup de monde à la ferme du safran
Eh bien, moi, j'ai trois chambres d'hôtes. Hein, j'ai trois chambres d'hôtes, donc oui, je reçois pas mal de monde, en fait. Ouais. Bon, ici, bien sûr, on est en saison morte, c'est beaucoup plus calme.
Et comment vous faites votre promo? C'est quoi? Ça vient de l'office de tourisme? Vous avez...
Moi j'ai un site personnel, bien sûr, ouais. J'ai les offices du tourisme qui m'aident et j'ai aussi je suis dans quelques coffrets cadeaux qui sont bien à la mode en ce moment en fait, hein, et qui nous aident bien à trouver.
Ah oui, les Smartbox là, c'est ça, ouais.
Le Smartbox et d'autres.
D'accord, ce genre de choses. Oui.
Donc ça c'est assez intéressant.
Combien ça coûte un repas chez vous?
Alors un repas chez moi va coûter 25 €, le menu complet, entrée, plat, fromage, dessert, vin, apéritif.
Une vin, c'est quoi?
C'est complet.
Ah oui, qu'est-ce qu'on boit?
Que du vin du Quercy. Non, non, je travaille avec des producteurs près de chez moi, en fait.
Alors, et vous avez vu que près de chez vous, vous avez Madame Patard?
Elle se trouve un peu loin. En table d'hôte, on est limité, en fait. On est un peu...
Oui, alors là, vous venez d'entendre les réglages de notre ami Jimmy, qui se fout royalement de ce qu'on vient d'entendre, parce que lui, il a des acouphènes, il n'entend rien, de toute manière. Hein, ça t'a pas fait un peu plus fort que d'habitude, Jimmy? Ça va?
C'est ça, les rockers.
Alors, blague à part, c'est quel vin qu'on retrouve sur votre table?
Pardon, j'ai pas compris.
Quel vin on retrouve sur votre table?
Alors, on travaille surtout sur les vins du Quercy, vu que nous, on se trouve sur les coteaux. Donc, on est un peu limité en table d'hôte. Normalement, en table d'hôte, on doit trouver autour de chez elle ce qu'elle va mettre sur la table.
D'accord.
Donc, moi, je mets à peu près 75% de ce que je mets sur la table provient de chez moi. Hein, j'élève des agneaux, donc je travaille beaucoup l'agneau, je fais mes légumes. Et après, les vins, le pain et le fromage, je travaille exclusivement avec des gens autour de chez moi. Le pain, c'est ma voisine. Le fromage est un peu plus haut, tu vois.
D'accord. Les vins du Quercy, mais on n'arrivera pas à savoir lequel. Hein.
Il ne pas le dire.
C'est du coteau du Quercy, en fait, en général. Hein.
Mais de la cave.
Ah, de la cave.
De la cave des coteaux du Quercy. Ouais, ouais. D'accord. Donc, un petit coucou à... comment il s'appelle? Jean-Sou.
Francis Jean-Sou. Oui, Francis Jean-Sou, le directeur de la cave. Ouais. Et celui qui fait les vins. Ah oui.
Pas très loin non plus, elle va nous faire déguster son vin, Nathalie Patard. Comment ça va, Nathalie? Ça va bien? Ouais. Vous êtes là depuis le début de la semaine et je vous ai vu même en tant qu'animatrice tout à l'heure organiser des jeux pour faire gagner. Alors il s'agissait en fait de tresser. C'était là à côté, elle me fait des gros yeux et tout, mais j'y étais.
Le concours de t-shirt mouillé.
Non, il s'agissait de tresser la vigne, quoi, c'est ça, non? C'était
d'attacher les baguettes de vigne.
Voilà.
Mais après, vous pouvez y participer si vous voulez. Hein. Le premier qui a réussi gagne une bouteille de vin.
Faut trouver aussi toujours un jeu concours pour le couteau.
Ah oui, on continue de chercher un jeu concours pour le couteau. Hein.
Ah non, c'est bon, il est parti à la gravure avec Gaël. Ouais.
Alors, quoi de neuf au domaine de Biarnès?
Mais les nouveaux vins. Hein.
Ah ben alors justement, tiens, faites-moi voir ce rouge-là.
Hop là.
Alors,
jolie bouteille déjà.
Ça c'est de la Syrah pure qui a été vieillie en barrique de chêne. Il est très bon. On a le blanc sec aussi, mais bon, après du vin rouge.
Alors racontez, s'il vous plaît, Madame Patard, la bonne idée qu'a eue votre mari de choisir cette belle bouteille. Elle est belle, la bouteille.
Elle est super.
Très jolie.
Vous avez vu cette belle bouteille, elle est en arrondi. Vous la verrez en photo sur le site qu'est-ce-qu'on-déguste.com.
Vas-y, montre.
Elle est magnifique. Et donc, je vous montre ce que c'est que normalement une bouteille de chez le domaine de Biarnès habituellement. Hein. Voilà. C'est cette forme-là.
Vas-y, rapproche.
Donc, quelle différence y a-t-il entre cette forme-là et cette forme-là pour le travail? Eh bien, c'est l'étiquette qui colle plus. Ah, c'est ça. Mais du coup, Madame Patard, elle a trouvé une super astuce. Et je trouve que ça a de la gueule, finalement, votre atelier découpage, Nathalie Patard.
L'étiquette, elle est en bas.
Mais non, l'étiquette, elle est coupée en deux pour pouvoir être collée correctement sans qu'il y ait de...
D'erreur de parallaxe.
De petites bulles de vagues.
Bravo, Madame Patard. Oh. On vous entend pas. Si vous parlez pas dans votre micro, ça n'ira pas. Hein.
D'ondulation.
On nous la fionne.
Donc le pur Syrah, vous en voulez?
Oh, les petites gouttes.
Ah ouais. Bah ouais, tiens.
Après, du coup, c'est un peu long de découper et de coller les étiquettes, donc il y a une augmentation de 70 centimes par bouteille.
C'est-à-dire que sur une heure, j'ai étiqueté 15 bouteilles.
Ça, c'est du rendement, Nathalie. On voit qu'on n'a rien à foutre à la campagne.
Non, mais en même temps, c'est un tout petit rendement, hein, ces bouteilles, non?
Oui, nous n'avons que 300 bouteilles.
Ouais, voilà.
Ah, bah, d'où leur prix un peu plus élevé, parce que c'est vraiment un produit...
Pourquoi plus elles sont à combien?
Elles sont à 11,80€.
Bon, ça va, ça reste à
zéro. Oui, ça va.
On est des privilégiés là, tu vois.
Ah, tu en veux peut-être? Bah oui, je vais le goûter aussi. Attention.
J'ai eu un petit conte de Noël, on parlait de safranier, puis est-ce que vous connaissez le Saint-Franier? Le Saint-Franier était un arbre qui n'existe plus maintenant depuis le passage à l'euro, mais autrefois dans le Tarn-et-Garonne, il y avait le Saint-Franier, c'est un arbre qui poussait et qui donnait des fruits toute l'année. C'était des pièces de Saint-Franc, on appelait le Saint-Franier. Et depuis le passage à l'euro, il n'y a plus d'arbre, il n'y a plus de pièces de Saint-Franc qui poussent.
C'était Georges.
Loup-Saint-Franier. En occitan. Alors cette année, finir l'année, j'ai choisi deux disques jazz qui m'intéressaient particulièrement. Deux disques qui ont été intéressants dans l'année et qui ont été importants. Cette année, c'était les 30 ans de la disparition de Georges Brassens. Il y a Christian Escoudé, le guitariste gitan, guitariste virtuose de jazz, qui a fait un hommage à Georges Brassens et qui a fait un disque complet. Et le premier titre que nous allons écouter, c'est Je mets mes lunettes au bois de mon cœur, et c'est un superbe terme, très bien enregistré.
Alors, est-ce qu'on parle sur ce...
Même sur les titres en français,
non,
hein,
non,
mélange,
on ne parle
non,
pas
non,
sur
non,
le jazz.
Non, j'avais dit.
Non. Surtout Brassens. Quoi.
Oui, non, c'est
on
pas
parle
bien.
Pas sur Brassens.
Non.
Santé. À Georges Brassens.
Très épicé campagne.
À Madame Patard. À la ferme.
Il a fait chaud, la ferme.
Chin-chin.
Très énorme.
Oh, bah, carrément. Thank you.
une fois qu'on peut écouter du jazz sans que tout le monde parle. Une belle interprétation de Georges Brassens par Christian Escoudet. Et à la contrebasse, il y avait Pierre Boussaguet.
Qui est d'Albi.
Allez, on reprend notre conversation, à la fois conversation croisée avec Bertrand Hoël de la ferme du Safran à Saint-Georges et avec Nathalie Patard. Je me demande comment est-ce que quand on fait la cuisine, quand on cuisine avec le safran, comment est-ce qu'on mesure le
ouais, c'est une bonne question, ça.
Le gramme là, ou le milligramme, ouais,
le dosage,
c'est un
le
truc
dosage
de dealer, ça. Alors, il faut des balances de dealer. Tu sais.
Nous, avec notre safran, le dosage, c'est une fleur. Une fleur contient 3 stigmates. Une fleur est suffisante à aromatiser une assiette.
Oui, ça va être clair pour nos auditeurs. Ah,
donc, alors, si on parle en filaments, ça fait 3 fils.
3 fils, 3 petits filaments qu'on trouve dans les fleurs violettes.
Par personne,
là.
Voilà.
D'accord.
Ouais. C'est largement suffisant pour aromatiser une assiette. Ce qu'on cherche, c'est pas du tout à dominer les produits qu'on va faire. Hein, c'est le mariage, l'alchimie qui va se faire en cuisine avec le safran.
Et sur un gâteau, par exemple, comme celui-là.
Alors ma femme, un gâteau en général, on va sortir.
Ah, sur un gâteau comme celui-là. Alors ma femme.
C'est ma femme qui les fait, ça. Là. On va sortir 8 parts. Donc voilà, 8 parts, hein, 3 fois 8. Donc 27 fils. Donc on le met, on l'infuse tout le temps.
C'est mathématique, quoi. Carrément, c'est mathématique.
Voilà, c'est assez mathématique.
On prend les grains, enfin on prend les filaments.
On les casse un peu.
Ouais. Hein,
on les casse toujours parce qu'en fait, vu qu'on les fait sécher, on lui crée une enveloppe. Si on casse pas cette enveloppe, le safran va pas se diffuser comme il faut. C'est un peu comme la vanille. La vanille, il faut la couper en deux pour sortir les arômes.
Ouais.
Le safran va faire la même chose. Et on va l'infuser.
Donc
on cherche l'infusion. Pour une tarte aux pommes, par exemple, on va l'infuser dans une cuillère, en 3 cuillères de lait. Hein, et après, on le mélange à la pâte. C'est pas plus compliqué que ça.
Ça, c'est des trucs que vous avez fait en tâtonnant un peu ou il y avait déjà des règles que vous connaissiez
C'est assez.
Vous avez fait des essais.
En cuisine, quasiment tous les grands cuisiniers savent qu'il faut infuser le safran. Hein. Après, ça se sait ou pas. Les gens ont peur d'utiliser le safran et ils achètent la poudre qui n'est pas du safran.
Mais là, ça marche plus.
Et voilà. C'est pas bon de toute façon.
Nathalie Patard, vous avez mis du safran dans votre vin chaud que vous distribuez aux passants du marché de Noël ici, Place Nationale.
Non, je ne crois pas.
Qu'est-ce que vous avez mis dans votre vin chaud?
Alors, on met des fruits secs, du gingembre sec, donc sucré, des plures d'orange sucrées aussi, sèches. Du citron, de la vanille, de la cannelle en bâton parce que sinon ça ternit le vin, donc il faut qu'il soit toujours brillant. Du sucre, parfois un petit glouc de cognac, c'est pas
ah oui la petite goutte,
il y a la petite goutte,
la petite
de cognac
goutte.
Elle y est là?
Non.
Non, là il faut être raisonnable.
Oui, voilà, c'est ça.
Et on fait cuire combien de temps le vin chaud?
Mais nous on emploie un percolateur, donc c'est très bien, c'est un système qui passe sur les fruits et qui ne laisse pas les fruits dans le vin, donc parce qu'après c'est pas terrible.
Au
ça
perco,
pas.
Du vin
mais non,
chaud
ça m'assert
au
pas.
Perco.
Non mais ça va très bien un percolateur.
D'accord. Là j'étais en train de me rendre compte qu'il nous restait 2 minutes sur cette première demi-heure et que je voulais donner ces 2 minutes à Papa Aioli. Papa Aioli, allô.
Papa Aioli au boulot.
Viens par ici. Parce que sinon, il ne va plus rien rester sur les petites ardoises que tu nous as apportées.
Oh, j'ai pas goûté.
Et...
oh là là, le menteur.
Alors, Papa Aioli du balétisme.
Aioli, les amis.
Ça va ou quoi?
Impeccable, je suis chaud.
Bon, qu'est-ce que c'est que tu nous as fait là?
Alors, c'est les petits diots de Savoie. C'est une petite saucisse savoyarde donc, que nous, on aime bien là-haut. On est très friands de ces petites choses. Donc, c'est cuit au vin rouge et aux oignons pendant 5 heures.
C'est confit dedans.
Ouais, exactement.
Voilà.
Putain,
c'est
voilà.
Bon, ça,
très
bon.
Donc un grand merci à nos amis savoyards parce que j'ai été pris de court et puis ils ont réussi à me trouver un super produit et réussi à me l'envoyer en moins de 24 heures. Donc
est-ce que ça on le trouve à ta carte à midi puisque maintenant tu fais à manger à midi au balétisme?
Non, c'est un petit clin d'œil pour contrecarrer les plans de McDonald's. Donc on a fait le Mac Dio. Donc on a fait
le Mac Dio.
Non, il y a un petit verre de vin et une
ah
crêpe.
Oui, d'accord.
Et non, c'était pas au menu, c'est pour le marché de Noël où on faisait déguster des petits sandwichs et des petits verres de vin et des crêpes. Voilà.
Donc là, on a droit à une édition limitée.
Et c'est une édition limitée de 100 exemplaires, exactement. Il y en a 100 et pas un de plus.
Qu'est-ce que tu proposes là sur le petit stand ici au marché de...
Au petit stand chez Garriguette, on propose avec mes collègues...
Avec Sandy Jolivert de Wine & Fun.
Ouais.
Eh oui.
Voilà. Je sais que vous l'aimez bien, Sandy.
Ah, on l'adore. Sandy.
Vous la kiffez, quoi.
Parce qu'elle a ses chaussures rouges. On la kiffe à mort, Sandy.
Mais va venir.
Sandy, viens nous rejoindre. Va.
On arrive au bout, mais non, on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps.
On arrive au bout.
Voilà, donc on propose des huîtres, du foie gras, on propose du magret, on propose des salsettes de charcuterie, de fromage. Le manger est bon,
On s'en fout, on l'a senti.
tu peux partir.
C'est ça. Moi je me casse. Salut, à tout à l'heure.
À bientôt, papa. Merci d'être passé.
Merci.
Salut, merci.
Au moins que je te fasse un bisou. Allez, on se retrouve juste après ça.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Allez, dans cette dernière partie de l'émission, qu'est-ce qu'on déguste depuis le marché de Noël, place nationale à Montauban, nous allons accueillir Magalis Vobodny de la ferme
Pouletou
de l'Abégeau. C'est à Le Borne, c'est à 20 km sur la route de Gaillac quand on part de Montauban. C'est là qu'elle a cette petite ferme où il y a un élevage en fait de poulets au départ, d'où Pouletou, mais aussi de canards, d'où ce qu'on a sur la table aujourd'hui. Bonjour, vous allez bien?
Bonsoir, oui.
Merci d'être là et de nous apporter alors foie gras,
rillettes et fritons.
Oh là, ça va être quelque chose. Ouais. Autour de la table toujours Pascal Olivier, Fabien Martinet, Gaël Steinbach, Georges Bonfils, Christophe Bory.
Bonjour là.
Et derrière moi, sur la scène, vous l'avez vu, il est en place avec sa guitare. C'est Jimmy. Jimmy qui...
Accompagné de Larsène.
Non, là, ouais, Larsène, c'est parti maintenant. Qui va nous jouer un morceau. C'est quel morceau, Jimmy?
C'est Les rues d'Honolulu.
Allez, Les rues d'Honolulu depuis le marché de Noël de Moissac. De Montauban.
Bravo. Il y en a qui suivent.
Ah, c'était pour voir. Ah, mais oui, là, bah, c'est le monsieur de la bière au calme. Il va falloir venir, oui, aussi. On vous attend.
C'est dans les rues de Honolulu que l'amour m'est tombé dessus. C'est dans les rues de Honolulu que l'amour m'est tombé dessus. Je sais qu'un jour je surferai sur tes désirs les plus secrets. Sur ton récif, loin de la houle, je m'accrocherai. Telle une moule, je m'accrocherai. Telle une moule. Les rues de nos lulus. Les rues de nos lulus. C'est dans les rues de nos lulus que l'amour m'est tombé dessus. C'est dans les rues de nos lulus que l'amour m'est tombé dessus. Aventurier de la nouvelle vague, ma planche vibre quand je te drague. J'obligerai les grands requins à chanter pour toi ce doux refrain, à chanter pour toi ce doux refrain. Les rues de nos lulus. Les rues de nos lulus. C'est dans les rues d'Honolulu. C'est dans les rues d'Honolulu que l'amour m'est tombé dessus.
Jimmy, monsieur, dame, qui donc à la fin de cette émission jouera tout à l'heure avec d'autres musiciens d'ailleurs, hein, qui tournent autour des faiseurs singuliers. Je pense notamment à Serge Martin Robin qui jouera tout à l'heure.
Thierry
Je
Brignac.
Pense à Thierry Brignac.
Patrice Cazot.
Patrice Cazot qui sera là également. Enfin voilà.
Et Arnaud. Et Arnaud.
Et Arnaud. Mais Arnaud. D'ailleurs, t'as vu depuis que j'ai dit qu'il était jaloux, il vient plus.
Il est parti.
Bizarre quand même. Merci en tout tu cas de fermer ton ampli avant de partir.
Vous êtes prié de laisser cet endroit.
Alors voilà, Magali Svobodny, s'il vous plaît, rappelez-nous pourquoi votre ferme s'appelle Pouletou de l'Abéjo.
Alors, bon, Pouletou de l'Abéjo, pour un petit clin d'œil, un petit peu... aux poulets qui viennent tout de l'Abéjo en fait, hein. Donc on l'élève complètement, hein, du petit poussin jusqu'à ce qu'il soit bon à consommer, c'est-à-dire qu'il ait quand même quelques semaines de vie, quoi. Hein,
poulet fermier.
Poulet fermier, élevé en plein air avec le grain de l'exploitation, hein, complètement, quoi.
Quelques semaines ou quelques mois.
Quelques mois, mais enfin, on compte en semaine quand même, parce que ça compte aussi pour affiner les volailles en fin d'élevage, c'est assez important. Ouais.
Votre poulailler, il a combien de poules ?
En fait, c'est des petites cabanes déplaçables sur des grands terrains de parc, et ces cabanes font 30 mètres carrés chacune, donc elles ont la capacité de 300 volailles. Voilà.
Vous les amenez à la mer, puisqu'elles sont déplaçables ?
Quasiment, non. Ouais. On déplace sur des terrains seulement. Voilà.
Et votre circuit de distribution, c'est quoi ?
Alors, bon, majoritairement, je propose la livraison, en fait. Je propose la livraison soit aux particuliers qui se retrouvent autour de mon secteur, ou aussi regrouper les personnels d'entreprise pour les livrer. Alors, je vais jusqu'à Toulouse pour ça, voilà. Mais Toulouse, Montauban et Gaillac font partie des
Mais vous faites, du gavage aussi, puisque là...
Alors voilà, alors depuis cette année, c'est un nouveau produit. C'est juste cette année, mon mari s'installe avec moi. On va le faire, notre société, très bientôt. Un petit peu par obligation pour lui, puisqu'il a fallu qu'il abandonne sa production laitière qu'il affectionnait depuis 20 ans. Mais bon, aujourd'hui, malheureusement, le lait ne paye plus.
Ça paye plus.
Ouais. Enfin, du moins, voilà. Bon, j'espère pour ceux qui résistent, qui vont continuer à se battre. Voilà. Bon, nous, alors du coup, ça a coulé un petit peu de source, puisque moi, j'étais installée depuis 4 ans toute seule avec de la volaille. Ça a coulé de source qu'ils viennent travailler avec moi. Et à ce moment-là...
Et donc, lui, il fait canard.
Et voilà. Lui, il fait le gavage. Moi, je m'occupe de la production, de la transformation et de la vente. Et lui, maintenant, il fait tout ce qui est production de tout. Autant des volailles que du canard.
J'imagine que c'est plus contraignant un élevage de canard à gaver, justement, qu'un élevage de poules. De poulet, non ?
C'est différent. Oui, c'est plus contraignant. Il a le gavage, évidemment, au quotidien, deux fois par jour. Hein, donc, il ne s'arrête pas. Donc on a décidé, donc c'est nouveau pour nous, hein, donc on a décidé de faire d'octobre à mars seulement pendant la saison gavage en fait, puisqu'on n'a pas les locaux pour gaver plus tard, plus longtemps, et puis c'est pas trop notre ambition de gaver à des saisons qui sont pas habituelles, hein, donc voilà.
Vous avez goûté ce petit
foie gras. Donc c'est nos premières, conserves, et nos premières productions, voilà.
Bah, c'est pas mal.
C'est les premières,
c'est les premières, on dira, parce que voilà, c'est le troisième lot, troisième ou quatrième lot qu'on a bas. Donc vous avez là du foie gras mi-cuit et ensuite des fritons ou des rillettes. Je sais pas si vous voulez les goûter.
Alors, je vais vous emmener pour un petit voyage vers les étoiles, donc avec une bande dessinée qui s'appelle Un pas vers les étoiles, qui à sa sortie était passée un petit peu inaperçue, mais moi j'avais vraiment adoré. Donc scénario de Félix, dessin de Parnotte et couleur de Rieux aux éditions Soleil. Alors on va s'attacher au pas de Manon, une petite fille qui du haut de ses 6 ans essaye de s'occuper au mieux de sa maman qui est en pleine galère. Alors la tâche est difficile pour une petite fille confrontée à la dure réalité du monde des adultes.
La dite maman, rongée par un lourd secret qui l'empêche d'élever convenablement son enfant, songe à la placer en famille d'accueil. Et nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année, et la fillette entreprend la recherche de son père, qu'elle n'a jamais vu, mais elle dispose quand même d'un indice et d'une information importante. Son père est le Père Noël. En effet, il est le seul qui peut les aider. Manon en est persuadée, mais pour cela, il va falloir le convaincre d'abandonner ce travail qui l'éloigne depuis trop longtemps de la maison. C'est bien joli de s'occuper des enfants des autres. Bernard Bonjour, un voisin qui est vieux, grincheux et qui déteste la terre entière. Alors pour ceux qui regardent un peu la télé sur M6, il ressemble un peu à Marcel dans Scène de ménage sur M6. Pourtant, il décide de l'aider. Alors bientôt va commencer un étrange road movie en voiture sans permis, donc très rigolo, mais sans compter sur un mystérieux père fouettard qui est prêt à tout pour kidnapper Manon. Mais au fur et à mesure du voyage, la terrible raison qui a poussé Bonjour à guider Manon se dévoile, et tous les personnages, on va s'apercevoir qu'ils cachent une blessure du passé, et les auteurs vont nous les livrer habilement au fil du récit pour nous aider à comprendre. Alors, je vous invite à découvrir, donc c'est un joli conte de Noël pour adultes qui nous fait passer des rires aux larmes, du mépris à la compassion, ou encore de la colère à la joie. On va se prendre assez vite d'affection pour Manon et sa quête du Père Noël, tant celle-ci est adorable et attachante. Alors le tout est magnifiquement mis en image par Joël Parnot, les couleurs de Delphine Rieux, à qui on doit le titre de l'album. Ils sont également pour beaucoup et vont ajouter une petite touche de poésie à l'ensemble par le choix de teintes pâles et douces. Alors ça s'appelle Un pas vers les étoiles de Félix Parnot Rieux aux éditions Soleil.
Ouais, en fait, t'as eu peur qu'on t'interrompe tellement pendant ta chronique, comme on le fait d'habitude.
Il a même pas respiré, il était tout rouge.
Non, ça doit être le foie gras de madame, qui peut-être m'a boosté, je sais pas.
Qu'est-ce qu'on met dans les gratons là? Comment...
Là, c'est les fritons.
Alors, les fritons, pardon.
Les fritons, ouais. C'est la pelure de canard qui est en fait fondue, c'est-à-dire tout ce qui est graisse et
la peau,
avec les restes de viande quand on le découpe.
Et quelle différence avec le graton quand on dit
alors,
graton?
Alors, le graton, en fait, c'est la pelure aussi, mais qui est coupée plutôt à la main et qui est frit, dans la graisse plutôt que confire. Elle est frite, donc du coup, ça sèche un petit peu et ça peut se manger dans des salades ou comme ça. Là, c'est plus une forme pâté entre guillemets, en fait, ouais, c'est quelque chose qu'on étale sur une sur du pain.
Voilà. Ça vous a vraiment bien.
C'est bon, hein?
Ouais.
C'est très diététique.
Alors, si on veut des poulets, du poulet tout, on fait comment? On s'adresse où
Alors bon, en fait, on peut directement venir à la ferme, hein, récupérer des volailles. Et puis, je préconise quand même qu'on passe commande pour être sûr d'avoir ces produits. Pour ça, bon, ben, j'ai des tracts que j'ai un peu distribués à droite à gauche.
Alors, il va falloir nous en laisser. On mettra le téléphone, les liens, site internet, machin. Faites des marchés?
Non, je fais pas les marchés.
Donc, uniquement la ferme. Choix.
C'était la ferme et puis en livraison ensuite.
Est-ce qu'il faut mettre les bottes pour venir à la ferme?
Les bottes pour pas avoir la boue, ouais, quand il pleut, oui.
Ouais, il vaut mieux, d'accord. Ouais, mettez vos cuissardes et venez acheter vos poulets, ça ira très bien.
Alors voilà, j'espère que vous avez très attentivement écouté la conversation qu'on vient d'avoir avec Magali
Pouletou
Svobodny. Parce qu'on va vous poser une question maintenant. Et vous allez devoir y répondre. Si vous y répondez, vous repartez avec ce fameux couteau. Le couteau
Montalban.
Est-ce qu'on peut jouer? Le Montalban, qui est très beau, hein.
Il est là.
Montalban.
Il est très beau, voilà. Il coupe bien en plus.
Qui est offert par le coutelier Marc.
Pierre Marc.
Donc, Pierre Marc. C'est pas difficile du tout. La question, elle est simple. J'espère que vous avez écouté. Comment s'appelle la ferme de Magali Svobodny?
Moi, je sais.
C'est quand même assez simple, hein. Voilà. Il y en a un qui arrive ici et qui nous dit ça, qui le dit à Pascal Olivier.
Ouais, il faut le dire complet, hein.
Et à ce moment-là, il repart avec ce fameux couteau. Pendant ce temps-là, nous accueillons
à ma gauche.
Grégory Robert, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, et vous?
Oh bah ça va bien. Grégory Robert, de la brasserie artisanale Ocal à la française.
C'est cela.
Alors merci de venir nous faire déguster votre bière. Alors il y a trois bières là qui sont posées devant nous.
Oui, on en a cinq en fait, cinq variétés. Bon là j'en ai pris que trois. C'est les trois qu'on a actuellement sur le salon. Donc il y a une bière blanche, qui est une bière donc très douce. Une bière ambrée, donc avec des arômes de caramel réglisse. Et puis une bière au thé, c'est la dernière bière qu'on a sortie cette année. Donc en fait, la fille du brasseur a ouvert un salon de thé à Toulouse il y a quelques mois. Et donc, ils ont eu l'idée de partager leurs activités en proposant une bière au thé au salon de thé.
D'accord.
Et donc, c'est bon, une idée originale qui vient apporter, en fait, c'est sur une base de bière blanche, ça vient apporter un petit peu de, en fond de bouche, des arômes de thé sur une bière qui est plutôt lisse.
On la boit avec du citron ou avec un nuage de lait?
Attends, on la boit
surtout pas avec du citron, on la boit nature. Hein.
Alors par quoi est-ce qu'il faut commencer si on fait une dégustation?
Alors pour se mettre le palais, surtout après le vin, il faudra vaut mieux commencer par la blanche.
Alors on attaque par la blanche.
Alors la brasserie Ocale, ça existe depuis combien de temps?
Ça existe depuis 13 ans. 13 ans à la française. Donc c'est Jackie Comont qui est le brasseur en chef. Et moi, je viens d'arriver. Alors ça, en général, on le fait pas. Mais...
mais si nous on fait.
Ah bon.
Nous on fait de la radio. Alors il faut que ça pète, il faut que ça parte.
La radio live. Donc c'est Jackie qui. Ça fait 13 ans qu'il est à la française, qui est originaire du Nord, donc qui est né dans la bière, on va dire. Et donc il a eu l'idée de lancer justement la bière blanche, la première bière qu'il a réalisée.
Voilà. Il commence à être très connu. Moi, j'étais l'été dernier, j'étais à Aubigny-au-Bac, c'est 10 km au-dessus de Cambrai, dans une micro-brasserie. Et le gars me dit, vous êtes d'où? Je lui dis, je suis de Montauban. Et il me dit, mais vous avez un gars là-bas qui fait de la bière, Jackie Courmont. Il est très connu dans le milieu des brasseurs.
Ouais, il est bien. Il est implanté depuis un certain temps, donc c'est vrai qu'il a une certaine notoriété, ouais.
Alors, Ocale, Ocale. Que Languedoc, on est dans le pays de
Al, ça vient de Ale. C'est le mot anglais, en fait, de la bière. Et qui s'adresse à des bières de fermentation haute, ce qu'on appelle.
C'est une entreprise familiale, une grosse entreprise, parce que j'ai comprendre.
Alors moi, je viens d'arriver.
Grégory,
en fait,
Robert, vous veniez d'arriver dans l'entreprise.
Voilà. Je viens d'arriver dans l'entreprise pour aider Jackie et puis pour, à terme, reprendre le flambeau.
D'accord. Vous êtes repreneur de l'entreprise éventuellement, quoi.
Pas encore, mais éventuellement, oui.
D'accord.
On se
dirige vers ça. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, là-dedans, justement, dans le...
La mousse, la bière
évidemment, le produit qui est très sympa. Et puis, l'idée aussi d'avoir sa propre entreprise et de pouvoir faire perdurer et perpétrer cette tradition de bière qui est excellente, quoi.
Alors, voilà. Bon, il y a de la mousse, hein. Il y a de la mousse.
Un peu de mousse.
Alors, on fait une petite halte parce que nous avons.
J'ai un gagnant, ça y est.
Un gagnant. Alors, Christophe, pars avec le micro à chef, interviewez le monsieur, je te prie.
Monsieur, quel est votre prénom?
Fernando.
Quelle était la réponse? Alors,
attention, la question était. Quel est le nom de la ferme de Madame Magali Svobodny, ici présente?
Si j'ai bien suivi, Pouletou de la Béjou.
Oh,
bien, bravo. Bravo, monsieur.
Donc, bravo, vous avez monsieur gagné. Svobodny. Non,
couteau.
Alors, le couteau, il est là. Le couteau, il est là. Il y avait un petit étui.
Il y a l'étui du couteau.
Il y a l'étui du couteau qui est ici. Tu prends une photo pendant que je remets le
officiellement.
Venez, approchez-vous, monsieur.
Pendant que tu remets mon couteau à monsieur.
Approchez-vous. Attention. Le couteau est remis à monsieur. Bravo, monsieur. Et donc, vous pouvez aller vous faire graver votre nom sur ce couteau gratuitement chez monsieur Marc, là-bas, à l'angle. Merci.
Bravo. Bravo, monsieur.
Au revoir, monsieur.
Bonne mémoire, ce gars-là.
Hein?
Bonne mémoire.
Eh bien, Pouletou de la Béjou. Si vous aussi vous aviez su, vous seriez reparti avec un bon.
Si on avait demandé le nom de madame, personne n'aurait répondu.
Ah oui, ouais, non, mais j'ai pas voulu quand même. Quel est le nom de Magali? et vous me les plaît en plus.
Voilà, à l'envers. À l'envers. Et en verlan.
Vous venez d'où? Ça vient d'où?
République tchèque. Mon beau-père venait de là-bas. Il n'est plus avec nous aujourd'hui, mais voilà. Il est dans...
C'est un nom qui sent la vodka.
En parlant de vodka, il nous manque à accueillir Olivier Thibault des Rives de l'Aveyron. Alors, en parlant de vodka, alors que il est producteur de jus de fruits.
Oui, mais ça va bien avec la vodka.
Vodka orange, pomme,
vodka cerise.
Hein. Et puis surtout, il a une particularité. Si vous passez du côté de Réalville, vous voyez peut-être dans ses vergers quelques bouteilles brillées accrochées au bout des branches. parce qu'à l'intérieur de ces bouteilles accrochées au bout des branches,
il y a des fruits.
Il y a des poires qui poussent et ça lui permet de faire macérer le fruit dans la bouteille. Et regardez qui arrive, tiens, voilà. Justement. Ah, oh, vous tombez bien, vous, dites donc. Et donc, voici l'arrivée d'Olivier Thibault des Rives de l'Aveyron. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre avec autant de jus de fruits et de jus de fruits.
Et jus de fruits.
Il a beaucoup de jus de fruits. En fait, il a aussi de l'eau de vie. C'est pour ça que je me marre. Mais on va faire connaissance dans un instant, Olivier Thibault, si vous voulez bien. D'abord, je vous présente Fabien Martinet, qui est notre spécialiste nouvelle technologie.
Et la Heroic Fantasy.
Ah oui, aussi Heroic
aussi,
Fantasy.
Aussi, bouquin d'Heroic Fantasy, science-fiction. Donc, comme c'est la période de Noël, je vous ai trouvé un bouquin d'Heroic Fantasy où on ne parle pas de dragons et de trolls, mais du Père Noël. Alors, le titre est de Terry Pratchett, célèbre auteur anglais qui fait de l'Heroic Fantasy très humoristique, très décalé. Donc là, on ne parle pas du Père Noël, mais du Père Porcher, dont le traîneau est tiré par quatre cochons qui s'appellent Creuseur, Caveur, Fouisseur et Foreur. Sauf que cette année, il y a eu un problème. Le Père Noël a disparu, le Père Porcher a disparu, il est peut-être même mort. Et qui est-ce qui a décidé de le remplacer pour sauver la fête ? La mort. Donc il faut savoir que dans l'univers...
Ça me rappelle quelque chose.
Il faut savoir que dans l'univers de Terry Pratchett, la mort est particulièrement humoristique. Déjà, c'est un homme, la mort.
C'est pas l'étrange Noël de Monsieur Jack qui est comme ça aussi.
Non, mais
c'est une sorte de voilà, mort qui remplace le Père Noël.
Ça serait très inspiré. Donc, sauf que là, la mort se prend au sérieux, se déguise avec la barbe blanche, le gros ventre, le traîneau de cochon. Donc, du coup, décide de ne plus assumer son rôle de mort. Et c'est sa petite fille qui est obligée de jouer le rôle de la mort et d'accompagner les mourants, parce que sinon, évidemment, plus personne ne meurt et c'est le chaos sur le disque monde. On va croiser la fée des dents et on va enfin savoir ce qu'elle fait avec toutes les dents qu'elle vole. On va croiser des tonnes de personnages, le dieu de la gueule de bois qui explique pourquoi le matin on a la gueule de bois. Donc c'est du Terry Pratchett.
Oh, mais ça a l'air vachement
c'est
bien,
complètement décalé, oui. C'est extrêmement bien fait.
Mais quel rapport avec l'Heroic Fantasy ? Parce que d'habitude
c'est... Parce que Terry Pratchett, en fait, il a créé la série Le Disque Monde, qui, je crois qu'il en a 30 volumes, et qui parodie beaucoup l'Heroic Fantasy, puisqu'on va retrouver Conan le barbare, on va retrouver le prince caché qui ne sait pas qu'il est le futur roi. Donc beaucoup de décalage, il en profite pour critiquer la société, puisqu'il y a un truc où il critique là, c'est il critique Noël et la fête économiste, et ce qu'on en fait maintenant que c'est mercantile. Il a fait une saga sur Hollywood, il a fait des sagas sur la politique, il a fait sur vraiment plein de choses. Celui-là est de période, je vous conseille de le lire, il est vraiment très 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 bon. Ça s'appelle Le Père Porcher de Terry Pratchett. Vous trouvez ça aux éditions Le Livre de... Presse Pocket, pardon, pour moins de 10 euros.
Oh ben voilà, pour Noël.
Voilà.
Pas cher Noël. Alors, un petit mot sur cette bière qu'on est en train de déguster, s'il vous plaît. Je cherche votre nom, Grégory, pardon.
Alors, ça c'est une bière qu'on appelle bière rouge. Donc c'est une bière
communiste.
Non, pas du
bière
tout.
Bière communiste, ouais.
Et qui n'est pas non plus aux fruits comme on le dit souvent. C'est une bière entre ambrée et noire, ambrée et brune. Donc elle est un peu plus forte qu'une ambrée classique.
C'est
a beaucoup d'arômes de caramel, de riz lisse.
Oui, je voulais dire, c'est quoi qui détermine justement la différence entre une bière comme celle-là, rouge, blanche ou brune ?
Donc en fait, c'est l'association des maltes qui donne déjà la couleur à la bière et les arômes. Et donc, par exemple, dans la bière rouge, il y a un mélange, donc c'est de l'orge, du malt d'orge. Il y a un mélange d'orge blond qu'on appelle, donc qui est pas du tout torréfié, avec du malt qu'on appelle caramel, donc qui est légèrement torréfié, et un petit peu de malt chocolat, donc c'est des degrés en fait.
Ouais, c'est les différences de torréfaction.
De torréfaction. Et donc, suivant le mélange, ça donne les couleurs plus ou moins cuivrées à la bière.
Votre circuit de distribution, à vous, c'est quoi ?
Alors,
parce qu'à une époque, on trouvait de la Hocale dans quelques bars montalbanais, mais je crois que ça n'existe plus trop.
Normalement, il y en avait aux Flamands, notamment.
Ouais, ouais.
Je ne sais pas s'ils en ont encore, effectivement. Sinon, c'est des épiceries fines, les caves à vin, caves à bière, évidemment. Et puis les petits commerces, quoi.
Ouais. Est-ce que vous faites des marchés ?
On fait pas de marché, non.
Non,
on fait plutôt des petites foires, des des foires au vin, des choses comme ça. Quoi.
Est-ce qu'on peut venir à la brasserie ?
Bien sûr, avec grand plaisir. Ouais. Vous pouvez venir à la brasserie. Vous nous appelez avant, on vous donnera les coordonnées. Et puis vous pouvez venir visiter bien sûr la brasserie et déguster sur place. C'est toujours mieux quand on est sur place.
On picole sur place à la pompe directement.
Exactement.
Ah, bah voilà. Du producteur au consommateur.
Merci Grégory Robert d'être venu nous parler de la Ocale qui est à la française. Olivier Thibault, vous, c'est les rives de l'Aveyron. Voilà. Et spécialiste en jus de fruits, voilà, donc, mais aussi en eau de vie.
Il y en a.
Exactement, il y en a.
Il y en a aussi.
L'autre jus, comme on dit.
Ouais.
Voilà. Donc, à la base aussi, producteur de fruits, hein, bien sûr. Pommes et poires, kiwis aussi.
Et voilà. Puis aussi, l'avantage qu'il y a aux rives de l'Aveyron, c'est qu'on fait la cueillette au verger. C'est-à-dire qu'ils vendent à la cueillette au verger.
C'est des feignants, ils ne veulent pas ramasser.
Ils ont raison.
Ils disent aux mecs, venez chercher vous-même vos fruits.
Ça nous évite de payer la main d'œuvre.
Est-ce qu'on les paye moins cher quand on va les acheter, cueillir sur l'arbre,
ouais. Oui, que dans le commerce, oui. En fait, tout le monde est gagnant, comme on dit.
Est-ce que ça fonctionne ?
Ça fonctionne plutôt pas mal.
Si on donne une idée de prix dans le commerce, et par rapport à chez vous, c'est quoi la différence ?
Alors, vous avez tous les kilos de pommes à 2,50 à peu près dans le commerce, à 2 euros, 2,50.
Parlez bien dans le micro.
Pardon. Et chez nous, c'est 1 euro à peu près, 1 euro, voire 0,90 même, voilà.
Et les gens sont respectueux des plantes, parce que moi je connaissais deux, trois producteurs, ils ont commencé à faire ça.
Oui.
Et les gens qui venaient chercher massacraient tout, ils arrachaient, ils cassaient les branches et tout. Non, là c'est.
Non, ça va, ils respectent bien.
Bon.
Voilà.
On
leur explique. Il y en a deux, trois qu'on peut pas respecter, ils sont plantés au fond du jardin.
Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'ils en ont pendu deux ou trois.
Dans le fossé, au fond.
Caché sous l'arbre, ouais.
Donc vous faites des fruits.
Voilà.
Vous produisez des fruits.
On produit des fruits. Kiwi aussi. Des kiwis verts. Et on transforme après en jus de fruits, en jus pétillant sans alcool, qui peut servir aussi à faire des cocktails. Et après, on fait aussi de l'eau de vie de poire, donc William. Alors, on ne distille pas nous-mêmes, par contre. Voilà, on fait faire, exactement.
Et vous le faites faire où ?
À Saint-Étienne-de-Tulmont.
Ah,
chez le vieux monsieur, là ?
Chez monsieur Rouer.
Dédé.
Énorme.
Ah oui, Rouer, c'est du bonne qualité.
Et parlez-moi de ces poires qui poussent dans vos bouteilles, là.
Alors voilà, donc il y a 4 ans, moi j'ai décidé de faire un truc un peu original, quoi, donc de faire des véritables poires prisonnières. Donc avec une poire. Donc au mois de. Pardon, je vous explique, c'est que quand elles sont petites, on en choisit une. On la passe dans la bouteille, donc avec sa branche.
Dans le goulot, quoi.
Par le goulot. Et on la laisse pousser. Donc on accroche après, il faut se débrouiller, trouver des techniques pour accrocher la branche à côté de l'arbre ou carrément sur l'arbre pour que la poire pousse dans la bouteille, quoi. Voilà, donc pendant 4 mois, après, elle va pousser dans la bouteille. Et donc au mois de septembre, à la récolte des poires William,
Récolter les bouteilles.
Voilà, on récolte les bouteilles, exactement.
Le fait qu'elles soient dans une bouteille avec le soleil qui va taper sur le verre, etc., ça l'a.
Pas plus que ça.
Non, elle n'est pas animée, là.
Non, parce qu'en.
Elle tape.
Voilà. Et en général, il y a du feuillage autour, donc ça la protège. Voilà. Hein, voilà.
Ça, c'est extraordinaire. Et alors. Quand vous faites distiller cette. C'est monsieur Rouer. Ouais. Énorme. Vous lui demandez. C'est lui qui travaille ou c'est vous qui lui demandez un truc en particulier? Comment ça se fait
Alors non, disons qu'il y a deux travails en fait. Il y a le travail de la distillation et en amont le travail de la fermentation et de la préparation des poires en fait. Donc il faut broyer les poires William quand elles sont bien mûres. Et les faire fermenter. Alors bon, le mieux c'est de les mettre au soleil, surtout au mois de septembre, octobre. Donc, faut les sortir tous les jours, les barriques, qu'elles fermentent bien. Et ensuite, on l'amène distiller. Voilà. Et non, en fait, ce qui est bon, c'est que c'est des bonnes poires William, qu'on a un bon producteur à la maison, mon père.
Alors,
voilà.
On arrive à la toute fin de cette émission, mais je connais un peu mes collègues de Qu'est-ce qu'on déguste. Entre leur faire déguster un de vos purs jus de poire et une eau de vie de poire, moi je les connais un peu. Donc
on va se sacrifier sur le jus de poire.
C'est bien.
De toute manière, tout ce que nous goûtons ici, sachez-le, nous le faisons évidemment.
Avec Mandel Lafion.
Merci.
Monsieur le Président.
Alors, moi je voudrais celle où il y a la poire dedans, s'il vous plaît. Oui,
allez,
c'est ça qui m'intéresse. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Georges, tu voudrais dire quelque chose ? On attaque.
Yana.
Allez, c'est pour vous.
Ah, pardon. On attaque le bizarre, nous dit Georges.
On a passé le tout venant.
Oui. Voilà.
Non, mais écoute, c'était sympa d'avoir tous ces producteurs, d'avoir tout ce monde là autour.
Ben moi, j'étais bien content de venir ici au cœur de la ville de Montauban, sur la place nationale, au milieu de ce marché de Noël, des faiseurs singuliers.
Ouais. Je regrette simplement une chose, c'est que le magasin Catimini ne soit pas présent ici.
Ouais. Ouais.
On n'a pas compris.
Je viens de voir, madame.
J'ai pas osé le faire. Hein.
Merci.
Non, on est bien dressé à qu'est-ce qu'on déguste.
Maintenant, on le fait pour lui, on prend 10%.
Ouais, c'est ça, ouais.
Aïe, 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 je vous jure. Bon, voilà, bravo encore une fois à tous ces producteurs du Tarn-et-Garonne.
Merci,
il y a une richesse en Tarn-et-Garonne.
On n'a pas eu droit au morceau de jazz.
Merci, bravo.
Fini avec du jazz, comme ça on va parler dessus.
Et bon réveillon, passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine.
Ne buvez pas trop et faites attention. Ouais.